RCF.
On s'intéresse à la représentation du Christ dans la peinture à cette approche différente entre Occident et Orient, deux cultures, de l'image à partir du premier millénaire surtout. Marina Kopsidas, on en parle avec vous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chrétienne orthodoxe. Comment est-ce que vous qualifieriez cette différence, cette approche qui n'a rien à voir entre l'Occident et l'Orient, qui s'est creusée finalement alors qu'elle était assez identique dans les premières années?
Tout à fait, le premier millénaire. N'ayons pas peur de dire le premier millénaire. Et d'ailleurs, par exemple, c'est l'époque quand même des cathédrales. Donc il y a la puissance spirituelle qui l'emporte sur le temporel. Et je pourrais dire qu'effectivement, on pourrait, je ne suis pas du tout compétente, mais dire qu'est-ce que c'est que les cathédrales et Sainte-Sophie à Constantinople, par exemple. C'est la même puissance et besoin de spiritualité et d'accueil de la transcendance qui fait que les hommes, je veux dire, se dépassent eux-mêmes quand ils arrivent à ce niveau artistique.
Durant le premier millénaire, les traditions sont proches, mais depuis la fin du premier millénaire, justement, la tradition d'Orient, la tradition d'Occident vont se creuser, les différences vont se creuser, notamment dans l'interprétation des images. Et ça tient aussi à la gloire et à la croix. Comment vous expliquez ça?
Il y a eu effectivement le très grave période d'iconoclasme, où effectivement, par politique et par tendance de négation de l'image de la part de l'empereur byzantin qui a été grandi dans un contexte proche de l'islam, donc pour affirmer sa puissance contre les monastères et l'église, alors il se dit quand même égaux aux apôtres. C'est quand même très modeste hein, quand un empereur commence à dire égaux. Égal à l'apôtre.
On est à quel siècle?
Et donc là, on est au 8e siècle. Et il fait détruire une icône emblématique, ce qui provoque évidemment tout de suite une réaction très forte de la population. Et là, le patriarche, évidemment, défend la cause de l'icône et veut interdire cette destruction systématique des icônes qui va justement se faire à Constantinople à l'époque. Et c'est pour ça que les icônes qui sont antérieures au monastère Sainte-Catherine sont très précieuses. Parce que celles qui étaient à Constantinople antérieures ont été détruites.
Mais c'est d'une violence inouïe.
Tout
pour
à fait.
Le peuple croyant.
Absolument inouïe. Alors, il faut dire que là, ce qui est très intéressant, c'est que le pape soutient le patriarche de Constantinople pour la défense des icônes. Et donc là, Orient et Occident parlent d'une seule voix pour la défense de l'icône. Pour aller un petit peu abréger, on sait que donc il y a le concile œcuménique de Nicée II, qu'on appelle Nicée II. Les autres avaient pour objectif de défendre la vraie foi contre différentes hérésies. La première hérésie, c'est donc l'arianisme, qui remet en cause la divinité du Christ. Voilà. Et ça s'appelle l'adoptionnisme parce que le Christ n'est pas fils de Dieu, mais lors de son baptême, adopté par Dieu. Donc, pour la foi chrétienne, cette position n'est pas acceptable puisque si le Christ n'est pas vrai Dieu, sa mort et résurrection ne peut pas évidemment se concevoir avec la résurrection, voilà, du monde.
Ça, c'est l'arianisme.
Voilà. Ce qui est très important dans le concile de Nicée I, c'est de dire et d'affirmer, d'une seule voix bien sûr, que le Christ est homoousios, de même nature que le Père. Voilà, de même nature que le Père. Le Père est en moi, moi je suis le Père, et j'allais dire c'est tout l'évangile de Jean bien sûr.
Et au fond, toutes ces conclusions des différents conciles vont avoir une importance sur l'art de représenter le Christ.
Oui, alors, les iconoclastes vont effectivement rejoindre l'arianisme pour dire qu'effectivement, il y a deux natures et que, bon, on ne peut pas, etc. Bon. Par contre, les iconodules, ceux qui défendent évidemment l'icône, disent que c'est le Christ vrai Dieu et vrai homme, tel que l'on pu rencontrer, et d'abord les apôtres et tous ses contemporains, qui est légitime de représenter. Il y a une légitimité par l'incarnation. Donc, ce n'est pas l'invisible qu'on représente, on présente à travers la figure F majuscule du Christ.
Alors, on a, si on vous entend bien, un millénaire de ce qu'on pourrait appeler de symphonie, avec 7 conciles œcuméniques, oui. Et puis, soudain, la rupture.
Alors, la rupture, elle est politique, parce que Charlemagne considère qu'il faut un seul maître du monde, qui serait lui, bien sûr, et que la présence de l'empereur à Byzance le gêne. Donc, il voudrait épouser l'impératrice Irène, qui le rejette. Et qu'est-ce qu'il imagine ? C'est que le concile Nicée II, sur lequel évidemment les occidentaux et orientaux étaient parfaitement unanimes, il y a une erreur de traduction, parce que effectivement on disqualifie l'adoration des icônes, parce que l'icône c'est quand même un objet, certes symbolique, mais c'est un objet. L'adoration ne va que vers Dieu, et ce qui est pour l'icône c'est la vénération. Et Charlemagne va se servir d'une erreur de traduction entre vénération et adoration, ou la version latine met adoration des icônes, pour dire on conteste les conclusions de Nicée II, et donc c'est un synode qui, à son initiative, va condamner les conclusions de ce concile œcuménique de Nicée II.
Donc Charlemagne, pouvoir temporel, remet en cause après, les conclusions d'un concile.
Et après, c'est lui qui aussi, de façon, je dirais, un peu diabolique, va utiliser le filioque pour arriver à la tragique rupture entre Orient et Occident qui va se faire en 1053 et en 1204.
Le filioque, donc, c'est
la deuxième arme de destruction massive imaginé par Charlemagne.
Oui, mais le filioque, pour le définir, Père, Fils, Saint-Esprit.
Alors, le filioque, c'est l'adjonction de « et » sur le credo. On a pu dire tout à l'heure un mot sur le credo, c'est-à-dire que le credo est le symbole de la vraie foi, d'une seule voix, fruit effectivement des conciles essentiellement nicéens et celui juste après de Constantinople. Et d'ailleurs, ça s'appelle le credo de Nicée-Constantinople. Et donc, on dit que l'Esprit procède du Père, comme dans l'Évangile de Jean. On ne peut pas modifier les Évangiles. Et c'est bon, des synodes locaux qui prennent l'initiative de rajouter le « coué ». Et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et l'erreur, c'est qu'il aurait fallu faire un concile et il aurait fallu mettre... Il ne procède pas, puisque évidemment les évangiles ne disent pas. Mais il manifeste. Et en fait, il y avait une clé très facile. Et je crois que même un des papes des premiers temps avait trouvé cette formulation. C'est-à-dire qu'effectivement, il procède du Père, mais on peut dire que finalement, puisqu'il envoie l'Esprit, il manifeste Christ.
Donc schisme réel qui va
tragique avec la quatrième croisade qui détruit Constantinople. Il y a des récits sur le sang qui coule partout dans les rues. Et alors tous les trésors, effectivement, ben justement on parlait une autre fois du Mandylion, le Saint-Suaire et tous ces objets magnifiques du monde byzantin sont volés et vont se retrouver en grande partie d'ailleurs dans le trésor de Saint-Marc de Venise. Et le Saint-Suaire à Turin, etc., etc. Et la couronne d'épines rachetée par Saint-Louis va se retrouver à la cathédrale de Paris.
Qu'est-ce qu'on peut dire des écoles d'Alexandrie et des écoles d'Antioche ?
Alors, ces écoles sont en fait des écoles de pensée théologique qui se développent à partir d'un certain contexte. Alexandrie est très marquée par la personne ce grand père de l'Église qui s'appelle Origène, très marqué par le platonisme et par le monde des idées, et qui va faire, comment dirais-je, quelquefois des interprétations un peu trop imaginaires des Écritures, alors que l'école d'Antioche, là où pour la première fois on a prononcé le monde chrétien, sont plus marqués par Aristote et donc plus orientés vers l'humanité du Christ. Origène, plus vers, j'allais dire, la partie de l'invisible.
Donc ça, c'est l'école d'Alexandrie.
Voilà, d'Alexandrie. Et l'école d'Antioche, c'est effectivement marqué par l'humanité. Et donc, dans les différents mouvements hérétiques, on s'appuiera tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Voilà.
Marina Copsidas, pour nos auditeurs qui écoutent depuis le début cette émission et qui auraient envie de découvrir une représentation du Christ Pantocrator, sans aller jusqu'en Italie, sans aller jusqu'en Grèce, où est-ce que vous les invitez à se rendre ?
Je les invite à se rendre dans deux églises catholiques que j'ai découvertes, à ma grande joie, où il y a un Christ Pantocrator. La première, c'est à Sanary, l'église Saint-Nazaire, où il y a un magnifique Christ Pantocrator et toute l'église est fresquée selon la tradition effectivement iconographique de la tradition de l'Orient. Et donc, c'était en plus assez étonnant, c'est à l'initiative du maire qui avait une église qui était à l'intérieur avec des murs blancs et qui a eu l'idée de faire un concours pour décorer cette église. Et c'est un iconographe orthodoxe qui a remporté l'adhésion. La deuxième église catholique, c'est l'église d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, qui avait été complètement rénovée, et ils ont mis un grand pantocrator. C'est peut-être, alors, comme image de l'œcuménisme, la plus parfaite que je puisse proposer.
Merci Marina Copsidas, et on sait que vous y êtes sensible parce que vous êtes vous-même chrétienne orthodoxe, passionnée par les Écritures. Vous publiez aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Le Christ Pantocrator ». Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine et merci à Pierre-Henri Paget à la réalisation de cette émission.